18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 février et vous écoutez, c'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes de Radio U sur le 101.1 FM. À l'honneur aujourd'hui, deux piliers de Brest, sans lesquels on ne peut penser cette ville ou presque. Si je vous dis aquarium, recherche, science et médiation, il ne peut s'agir que d'une chose, d'un lieu, Océanopolis, dont on parlera en deuxième partie de l'émission pour évoquer l'importance d'un tel lieu. Et le deuxième pilier de la ville, qui n'en est pas à sa première édition, et dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est le forum Andy Diop. Aujourd'hui, sur 2,7 millions de personnes handicapées, il y en a 938 000 qui ont un emploi. Seulement 24% des personnes handicapées ayant un emploi ont le bac, voire un diplôme supérieur. Quand les personnes valides restent en moyenne 602 jours sans emploi, on est à 804 pour les personnes handicapées. Autrement dit, être handicapé et trouver un travail ou un stage n'est pas chose facile, même si des améliorations sont bien sûr à constater depuis quelques années. C'est pour cette raison que le forum Andy Diop, qui aura lieu jeudi 11 en ligne, est très important. Pour en parler avec nous, Laetitia Knebel, représentante de l'association Handisup et qui participe à la mise en place du forum. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter le forum Andy Diop en quelques mots ?
Oui, c'est un forum qui se tient tous les ans et puis qui s'adresse à des lycéens de terminale, des étudiants, des jeunes diplômés en situation de handicap. Et il se déroule en deux temps. Il y a une partie conférence et une partie rencontre employeur sous forme de job dating.
Et concrètement, c'est quoi les fonctions, les objectifs du forum ?
Alors, il y a deux objectifs principaux. Il y a un premier objectif qui est celui d'informer sur une thématique générale sur le handicap. Donc, cette partie information se déroule plutôt sur le temps des conférences. Et la deuxième partie a pour objectif, en fait, de faire se rencontrer des jeunes et des entreprises handi-engagées.
Et depuis combien de temps est-ce que ce forum existe ?
Alors, la première édition a eu lieu en 2011, donc ça fait 10 ans, et là, c'est la 11e édition cette année.
Et concrètement, comment elle a été mise en place ?
Alors, les premières éditions ont eu lieu sous forme de café-rencontre, en fait. Donc, c'était des moments conviviaux où, autour d'un café, des référents handicap d'entreprise pouvaient discuter avec des jeunes en situation de handicap. Au fur et à mesure, le forum s'est étoffé pour répondre à la demande et se sont mises en place les parties du coup information via les conférences et puis la partie rencontre entreprise qui s'est quelque peu formalisée autour du job dating.
Donc un forum qui s'adresse aux personnes handicapées. Est-ce que ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont un handicap physique ou alors est-ce que c'est vraiment un forum qui s'adresse à tous les types de handicap ?
Alors c'est vraiment tout type de handicap confondu. Il n'y a pas de restrictions en la matière.
Et je me demandais, est-ce que les personnes valides peuvent aussi participer, par exemple dans l'optique de se rendre compte en fait, des difficultés qui sont encourues par les personnes handicapées ?
Alors, la partie conférence est bien évidemment ouverte à tout public. N'importe qui peut venir s'informer et c'est bien le but justement de cette partie conférence. On est bien sur l'idée d'informer et puis de décloisonner la question du handicap.
Oui, donc une forme de sensibilisation
Tout à fait, c'est exactement l'objectif. Cette année, la thématique, c'est l'impact de l'inclusion professionnelle sur le stéréotype et la réussite.
Et donc ce forum, forcément, il ne se fait pas tout seul. Il y a des organisateurs, des partenaires, qui sont-ils ?
Alors, le forum est co-organisé par le service insertion de l'UBO qui est Cap Avenir et puis par du coup Handisup Bretagne. Et nous avons l'appui au niveau de l'organisation d'un groupe d'étudiants du Master 1 RH de l'IAE.
Et justement, en parlant d'Handisup, vous êtes vous-même membre d'Handisup Bretagne. Est-ce que vous pourriez nous présenter là encore l'association en quelques mots ?
Alors, nous avons été association pendant longtemps. Depuis janvier 2019, nous avons intégré la Fondation Santé des étudiants de France et plus particulièrement le Centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu. Donc, il y a des services sur Rennes. Je vais vous présenter plus particulièrement ce qu'on fait dans le Finistère. Donc, on accueille des lycéens dès la seconde, des étudiants, des jeunes diplômés ou déscolarisés qui sont tous en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap. Et on est vraiment là pour les aider à construire et poursuivre leurs études. Et l'objectif étant une insertion professionnelle réalisable au bout du compte. Et on couvre tout le territoire du Finistère.
Et bon, donc là, vous le disiez tout à l'heure, le forum, il existe depuis 2011. Avant, comment ça se passait ? Est-ce qu'il y avait d'autres supports pour aider les personnes handicapées à trouver du travail ?
Alors, les principaux acteurs qui sont bien évidemment toujours présents et qui continuent à se développer et à œuvrer pour l'insertion pro pour les personnes en situation de handicap, ça reste Cap Emploi. Et puis la GFIP, du coup, voilà. Donc ce sont les acteurs principaux qui étaient déjà là historiquement avant nous. Et puis si vous prenez les collectivités, la fonction publique, il y a aussi le FIPHFP.
Pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez juste expliquer
Voilà, alors c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc c'est l'entité qui va mettre en œuvre en fait tout ce qui va être maintien sur des postes de travail et aménagement des postes de travail.
Donc là, vous parlez des acteurs, mais est-ce que vous avez des mesures concrètes en tête qui ont été faites avant ce forum ?
Alors, avant ce forum, il y a la loi de 2005 sur le handicap, en fait, qui conditionne toutes nos actions à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Donc, la loi de 2005, elle a créé les MDPH, elle a créé les Cap Emploi, donc toutes les instances qui régissent le handicap.
Vous sauriez nous dire en quelques lignes, en quelques mots en quoi consistait la loi de 2005 ou...
Alors, la loi de 2005, elle dit qu'en fait, toute personne en situation de handicap, du coup, a le droit à une compensation de son handicap. Donc, compensation dans les actes de la vie quotidienne. Ça peut être une compensation matérielle. Ça peut être une compensation au niveau du logement, de l'accompagnement à l'insertion, au niveau des études, au niveau de l'emploi. Voilà.
Oui, donc ça couvre vraiment tous les domaines.
C'est vraiment, ça couvre tous les domaines, de la vie quotidienne, de la santé, de l'insertion au sens large du terme.
Et pour revenir sur le forum, forcément, Covid oblige, le forum se fait en distanciel cette année. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ?
On n'en sait rien pour l'instant. Au niveau de l'organisation, il y a une partie technique qui est bien évidemment beaucoup plus affirmée, à laquelle je ne participe pas parce que ça ne fait pas du tout partie de ma compétence. Là, on s'appuie vraiment sur les étudiants de l'IAE qui sont beaucoup plus compétents que nous en la matière. Voilà, donc c'est la différence. Et puis j'aurais tendance à dire qu'a priori, on va se recentrer vraiment pour le coup sur un échange entre des jeunes qui vont présenter des compétences et puis des employeurs qui vont venir présenter leurs entreprises. Je pense qu'il va y avoir un recentrage vraiment sur la partie rencontre.
Et même si c'est compliqué aujourd'hui de le savoir, mais est-ce que vous avez l'impression que ça peut... soit apporter des choses qui sont mieux, qui rendent l'événement plus accessible, par exemple, plus facile, ou alors est-ce qu'au contraire, ça rajoute des obstacles ?
Alors, ça dépend. Pour les gens qui ont une mobilité géographique contrainte, ça facilite les choses. On se rend compte là qu'on a des jeunes, par exemple des services de Handisup de Rennes, qui se sont inscrits au forum, puisque c'est en distanciel, donc ils n'ont pas à se déplacer. Par ailleurs, il y a d'autres types de handicaps pour lesquels on se rend compte que le distanciel crée de la difficulté, notamment pour les troubles cognitifs. Ça peut être plus compliqué d'aborder les choses en distanciel et avec un écran interposé.
Et justement, en parlant d'écran, en parlant de distanciel, est-ce qu'on peut imaginer qu'un site a été adapté pour différents handicaps ? Là, vous parlez des handicaps cognitifs, mais on pense aussi aux handicaps visuels, sonores. Je sais que, par exemple, les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, des sites lambda, ce n'est pas forcément évident. Ou même des personnes sourdes, si tu as des conférences, c'est pas évident non plus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place ?
Alors, nous, pour le forum, au moment où les gens s'inscrivent, on leur demande toujours s'il y a la nécessité d'aménagement. Jusqu'ici, il n'y a pas eu le cas. Donc, il n'y a pas d'aménagement matériel qui est mis en place au niveau du site. Et hier, j'ai été contactée par quelqu'un qui est... sourd et qui va participer au forum. Du coup, c'est son accompagnateur qui va en fait servir d'interface, puisque la personne peut lire sur les lèvres, mais il faut pouvoir assurer effectivement tous les détails de la conversation qui vont pas forcément être bien saisis. Donc c'est l'accompagnateur du coup du jeune qui va servir d'interface et qui va mettre en œuvre l'aménagement par sa présence.
Mais du coup, parce que là, le forum, il prône quand même tout ce qui est accessibilité, etc. Du coup, est-ce que ça ne serait pas plus logique, même si je sais qu'il y a évidemment une contrainte de temps, une contrainte de budget, etc., de créer de manière générale, de toute façon, un site qui soit adapté pour tous, parce que ça paraît un peu étonnant qu'un site s'adapte juste pour un événement en particulier et que sur le reste du temps, il ne soit pas du tout adapté pour personnes handicapées.
Alors, en fait, nous, on n'a pas de site en lui-même. Si on en avait un, il serait évidemment accessible à tout type de handicap. Après, là, c'est le forum va se mettre en œuvre via Zoom, en fait. Voilà, donc c'est un événement qui est très ponctuel. Je ne sais même pas si techniquement parlant, effectivement, la question de l'accessibilité est prise en compte ou pas. Après, on fait en sorte que ça puisse être accessible à tout le monde quand même.
Et pour revenir sur le programme du forum, vous le disiez tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des job dating, donc des moments un peu privilégiés pour rencontrer des entreprises. Il y a aussi des conférences, et je me demandais si c'était important pour vous qu'il y ait des conférences, qu'il y ait vraiment cet aspect de sensibilisation.
Ah ouais, complètement. On se rend compte de la nécessité qu'on a encore aujourd'hui, effectivement, d'aborder le handicap sous forme d'une thématique un peu plus précise, mais sous forme générale aussi. Il y a la nécessité de continuer à sensibiliser, à décloisonner, à normaliser, en fait, cette question, et pour arriver à une inclusion beaucoup plus marquée, en fait. Donc, c'est hyper important, et on est quand même très fiers d'avoir la capsule vidéo de Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, et puis l'intervention aussi de Nathalie Sarah-Bézol, qui est la présidente du conseil départemental. Voilà. Après, il va y avoir des témoignages de personnes, et c'est une vraie richesse que d'avoir ces conférences.
Et je me demandais si le forum permet aussi de présenter des initiatives qui faciliteraient la vie des personnes handicapées, donc par exemple, des initiatives pour favoriser l'inclusion à l'école, ou alors dans les universités, évidemment, ça va avec, ou encore pour permettre une meilleure accessibilité à la culture.
Alors, en fonction de la thématique choisie, effectivement, on met en avant les structures ou dispositifs qui favorisent toutes ces questions-là. Par exemple, l'année dernière, on a eu une présentation du métier d'AVS, et on a eu une présentation des nouveaux dispositifs d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc, en fonction de la thématique, effectivement, on met en avant l'offre de prise en charge et locale, en règle générale.
Et donc, je disais tout à l'heure, ce forum, il y a aussi des entreprises qui participent forcément pour pouvoir dialoguer avec les jeunes. Quelles sont ces entreprises et pourquoi ces entreprises en particulier ?
Alors, je vais les citer. Donc, on a, comme tous les ans, il y a Thales, le groupe CMB Arkea, Ikea sera là, Naval Group. Malheureusement, Ifremer a été obligé de décliner au dernier moment. Mais si vous êtes intéressé par une rencontre avec Ifremer, on peut aussi prendre les coordonnées de la personne et organiser ça en dehors du forum. Il y a également une dernière entreprise qui sera là également. Ces entreprises, elles nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce forum depuis le début, en fait. Elles sont ce qu'on appelle handi-engagées. Elles ont une vraie volonté politique de permettre à ces jeunes d'accéder effectivement à des opportunités de stage, d'alternance et de premier emploi au même titre que tout le monde.
Et est-ce que pour l'avenir, vous envisagez de travailler, si je peux dire, avec des entreprises qui ne sont pas forcément aménagées parfaitement pour les différents handicaps, mais qui s'intéressent quand même à la thématique et qui essayent de s'améliorer sur ce point-là.
Alors, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien de toute façon déjà. On s'appuie sur toutes les bonnes volontés, sur toutes celles qui ont effectivement l'envie d'accueillir des personnes en situation de handicap. On vérifie toujours effectivement qu'il y a une accessibilité qui est possible. Donc, ça peut être une accessibilité des locaux, donc quelque chose de matériel. Mais c'est aussi, du coup, la volonté des équipes qui vont accueillir le jeune de s'adapter elles-mêmes en termes de posture et puis de prise en compte des choses. Donc, on le fait au quotidien. Et si ce forum a vocation à s'ouvrir, on associera effectivement toutes les entreprises qui souhaiteront être sur cette bienveillance et puis d'être dans cette dynamique positive.
Et toujours pour parler organisation. Donc le forum, il a été organisé par 5 étudiants en Master 1, gestion des ressources humaines à l'IAE de Brest, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quel rôle ils ont joué dans cette organisation ?
Alors c'est eux qui définissent la thématique, c'est eux qui cherchent les intervenants, on les fait bien évidemment bénéficier de nos réseaux respectifs avec Madame Grèce de Cap Avenir. Et puis c'est eux aussi qui sont en charge de toute la partie organisation. Nous, on invite les entreprises, puisqu'on travaille avec elles au quotidien, donc on a les contacts, on invite les entreprises. Une fois que les invitations sont lancées, après, ce sont les étudiants qui mettent tout en œuvre. Donc, ils définissent effectivement la thématique. Après, ils inscrivent les jeunes qui souhaitent s'inscrire. Ils sont sur toute la partie organisationnelle. Ils sont aussi sur toute la partie communication. Ils définissent effectivement le visuel, les objets de com et voilà. Donc, ils ont un rôle prépondérant.
Oui, on pourrait les remercier.
Oui, tout à fait.
ce forum, donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est sa 11e édition. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez eu des retours de jeunes qui soit ont pu tout simplement prendre confiance en eux, en leur capacité grâce à ce forum, soit même carrément ont pu trouver du travail?
Alors effectivement, ça débouche tous les ans sur des opportunités de stage ou d'alternance. C'est pas forcément immédiat comme effet. Le but du jeu, c'est quand même que des jeunes rencontrent des entreprises. Il y a une interconnaissance qui se crée. Nous, derrière, on relance. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment créé, on relance, on accompagne. Et ça donne régulièrement lieu, effectivement, à, voilà, à la réponse à des besoins pour les jeunes.
Et enfin, dernière question. Si, en plus de ce forum, vous aviez la possibilité d'organiser ce que vous voulez, de faire passer la mesure que vous voulez, sans limite, que ce soit budgétaire, temporelle ou autre, qu'est-ce que vous feriez ?
Alors, je ne sais pas si jamais on peut faire passer ça par une mesure, mais la notion de bienveillance, de respect et puis d'acceptation de la personne pour ce qu'elle est, ça me paraît être la base et le point de départ de tout. Après, quand on est déjà dans cette perspective-là, dans l'idée que la personne elle a un fonctionnement, qu'on ne la changera pas, au même titre que nous, on apprécie être accepté pour ce qu'on est, je pense que déjà, de bonnes bases saines sont posées. Voilà.
Oui, c'est vrai que si on peut commencer par le respect et la bienveillance, ça paraît assez primordial.
Tout à fait.
merci beaucoup, Laetitia.
Je vous en prie, merci à vous.
C'était donc Laetitia Knebel, membre d'Andisup, qui s'est chargée de la mise en place de ce forum Andidium, qui, je le rappelle, a lieu jeudi 11 prochain, et auquel, pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à andijob2021@gmail.com. Vous êtes sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Comme je le disais en première partie d'émission, Océanopolis, qui représente un des piliers de la ville de Brest, a un rôle assez important, notamment dans la transmission du savoir, mais pas que. On en parle au téléphone avec Anne Rognon, conservatrice en charge de la médiation scientifique et culturelle à Océanopolis. Bonjour Anne.
Bonjour.
Le parc est toujours fermé au public, mais vous continuez votre mission de médiation scientifique et culturelle, notamment avec une conférence qui est organisée pour mardi 16 prochain et qui sera retransmise sur votre page Facebook. Pour les informations, ce sera à 20h30 sur le thème « La Bretagne et la mer à l'horizon 2040 », qui est en fait un titre d'une étude du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne. Est-ce que, en quelques mots, vraiment très rapidement, vous pouvez juste nous présenter la conférence ?
En fait, c'est une conférence qui va être réalisée par Antoine Dosda, hein, qui est, comme vous venez de le dire, membre du Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne. Il est co-rapporteur d'une étude « La Bretagne et la mer à l'horizon 2040 ». Donc il va venir évidemment nous en parler. En fait, il nous propose de nous projeter en 2040 et d'aborder des thèmes comme est-ce que finalement la Bretagne, ce sera la vitrine des énergies marines ? Est-ce qu'on va parler peut-être d'élévation du niveau marin ? Comment vont évoluer les techniques de pêche ? Voilà, comment la Bretagne sera positionnée finalement dans un système portuaire international ? Bon, de nombreuses questions, en tout cas, seront abordées par M. Dosda. Il va présenter des scénarios, ce sont des récits imagés de la Bretagne maritime en 2040. Et puis, il y aura évidemment ce qui est intéressant. Cette conférence se déroulera en live, mais nos auditeurs pourront tout simplement aussi poser leurs questions et M. Dosda pourra y répondre.
Et pour revenir du coup à Océanopolis, comme je le disais à l'instant, Océanopolis continue sa mission de médiation scientifique et culturelle. Aujourd'hui, la définition de médiation scientifique et culturelle, elle est encore méconnue, voire même floue pour certains. C'est quoi la vôtre de définition ?
Alors déjà, peut-être rappeler qu'Océanopolis, c'est le centre national de culture scientifique, technique, industrielle dédié à l'océan en France. Nous avons été financés comme cela il y a plus de 30 ans maintenant. Nos missions à Océanopolis sont des missions de sensibilisation, d'éducation, de conservation. Donc ça, c'est important. Et la notion de la médiation scientifique, hein, le terme médiation scientifique, c'est un terme au départ un petit peu juridique. Ça va au-delà de diffuser, transmettre un contenu scientifique rigoureux et l'adapter au plus grand nombre. Dans la notion de médiation, il y a un aller-retour entre le médiateur scientifique et le citoyen, le visiteur. Donc finalement, Océanopolis, c'est un centre de culture scientifique à l'interface entre la science et la société. Et nous pouvons donc aborder dans notre centre différentes thématiques, alors bien évidemment liées à la biodiversité marine, aux écosystèmes marins, mais aussi des sujets plus complexes comme le changement climatique, les pollutions plastiques, et aborder aussi des controverses, des sujets de controverses.
Et du coup, cette médiation scientifique et culturelle, à quel public elle se destine ? Est-ce que c'est pour des publics scolaires ? Est-ce que c'est tout type de public ?
Alors nous avons différentes missions, hein, des missions de service public, donc nous accueillons de nombreux scolaires en temps normal à Océanopolis, plus de 35 000 de la petite section maternelle jusqu'au Master 2. Donc ça c'est pour le public scolaire. Nous avons 35 ateliers adaptés au niveau scolaire et en ce moment nous avons été obligés de nous réinventer. Nous proposons des e-classes aux établissements scolaires pour avoir une certaine continuité pédagogique et on a essayé de recréer les interactions que nous avions en présentiel à Océanopolis au sein de ces nouveaux dispositifs de médiation scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette manière de se réinventer nous permet d'aller aussi à la rencontre de publics que nous recevons peut-être un peu moins à Océanopolis, des publics plus éloignés ou des publics empêchés. On fait de la médiation scientifique avec tous les publics à Océanopolis. On accueille évidemment de nombreuses familles pendant les petites vacances scolaires, hein, mais on a vraiment différentes typologies de publics à Océanopolis. Nous, en tant que centre de culture scientifique et technique, nous devons nous intéresser à tous les publics, quels qu'ils soient. Et évidemment, quand nous sommes très attentifs à certains publics qui viendraient un peu moins facilement à Océanopolis, eh bien, mes équipes attachent beaucoup d'importance à travailler avec ces publics-là avant qu'ils viennent chez nous à Brest en fait.
Et donc là, tout à l'heure, vous parliez de votre définition de la médiation culturelle et scientifique. Justement, quelle différence vous faites entre cette définition-là et la vulgarisation?
Ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, la vulgarisation scientifique, c'est adapter un discours, c'est vrai, à un plus grand nombre. Mais on est sur un schéma très vertical. Alors que dans la médiation, il y a un aller-retour hein, entre le public et le médiateur scientifique. Ça veut dire que lorsqu'on fait de la médiation scientifique, il faut que nous ayons connaissance des attentes des publics. Et pour avoir des attentes, connaître les attentes du public, il faut faire de la culture scientifique. Donc nous sommes des faiseurs de culture scientifique, des passeurs de culture scientifique. Certains peuvent vulgariser leur contenu scientifique parce qu'ils travaillent dans un laboratoire. Donc on est plutôt dans un exercice de vulgarisation. Et ça fonctionne très bien, bien évidemment. Mais quand on est médiateur scientifique, on a une connaissance des publics, des attentes. On les interroge très, très souvent. À chaque fois qu'on met un dispositif de médiation scientifique en place, eh bien, on va l'évaluer. Il va être évalué par la cible, par les visiteurs. Et comme ça, ça nous permet de nous recaler en fonction de ce que nous souhaitons réinventer ou inventer pour nos publics. Hein.
Oui, donc en fait, la principale différence, ça serait le côté aller-retour.
Oui, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai que c'est une des différences, mais vous savez, dans vulgarisation, ça vient de vulgus, vulgaire, hein, donc c'est quelque chose, la vulgarisation, qui est un petit peu entre des savoirs qui seraient des savoirs de savants et des personnes qui savent un peu moins. J'aime pas trop cette définition-là, mais finalement c'est comme si c'était un sachant qui explique à un non-sachant quelque chose. Elle n'exclut pas forcément l'échange, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais finalement c'est quelque chose de très très vertical. Alors que la médiation scientifique, moi j'aime bien aussi la rapprocher du terme de traduction. Le médiateur scientifique peut finalement avoir une fonction d'interprète. Il y a une circulation continue des échanges entre le citoyen et le scientifique. Chacun va se nourrir aussi de l'autre, et parce que aussi les citoyens ont des choses à dire. Par contre, il faut quand même, quand on est médiateur scientifique, avoir des connaissances fortes, voilà, pour éclairer ses arguments. Ça, c'est important.
Et en temps normal, vous organisez des conférences, mais pas que. Il y a plein d'autres choses. On pense à la fête de la science, par exemple, ou encore la nuit européenne des chercheurs et des chercheuses, et d'autres projets, hein, Preventing Plastic Pollution, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors dans nos missions de culture scientifique et technique, nous avons la chance d'être coordinateur départemental de la fête de la science, qui est cet événement de culture scientifique nationale qui a lieu tous les ans, hein, qui va avoir lieu au mois d'octobre prochain, où nous essayons de réunir à peu près 35 laboratoires, associations, entreprises qui vont finalement faire de la vulgarisation pendant 4 jours à destination du grand public, mais aussi des scolaires. Donc ça, c'est notre rôle un petit peu d'animateur sur le territoire. Et puis, nous avons déposé un projet pour la prochaine Nuit européenne des chercheurs. C'est un programme européen, donc on n'est pas encore retenu, mais nous espérons qu'en septembre, nous puissions la mettre en place, et puis avec vous aussi, parce que vous êtes un de nos partenaires depuis quelques années. Pour moi, c'est intéressant parce que autant la fête de la science, c'est un événement qui est assez connu, on va dire, depuis ça va être les 30 ans, je crois, de la fête de la science cette année. La Nuit européenne des chercheurs, nous accueillons des publics qu'on nous avons pas forcément souvent à Ossanopolis, plus de 50% ou entre 15 et 25 ans, donc on s'adresse aussi à des publics différents ce soir-là, dans un temps qui est très très restreint. Nous avons aussi donc le programme des conférences, comme vous venez le mentionner, qui court sur l'année. On a entre 15 et 20 conférences et nous faisons intervenir des personnes que nous connaissons, hein, qui sont nos partenaires scientifiques depuis des années, qui ont des résultats à montrer. Ils souhaitent échanger avec nos publics sur leurs résultats récents de recherche. Donc ça, c'est intéressant. Vous venez également d'aborder notre programme Preventing Plastic Pollution, qui est un programme aussi européen Interreg sur comment limiter et lutter contre les pollutions plastiques. C'est un programme qui réunit 18 organismes français et anglais. par exemple sur le territoire brestois, on travaille avec l'IFREMER, avec le CNRS, la BOCEA, Brest Métropole et bien d'autres, voilà, comme le SAGE. Le Sagelet-Lorne ou Douarnenez, etc. Donc ce sont des partenaires vraiment très importants et nous travaillons sur la pollution plastique de la source à l'océan et nous mettons en place des ateliers pour les élèves, des school plastic hackathon, donc des nouveaux dispositifs de médiation interactifs, innovants, qui amènent une autre manière d'échanger avec les publics, hein, des conférences bien évidemment. Donc finalement, nous sommes insérés dans un programme scientifique et ce programme nous permet de nous nourrir et on essaye de transmettre tout ce qu'on apprend dans ce programme à nos différents publics de différentes manières. C'est pas le seul programme scientifique dans lequel nous sommes impliqués. Là, on démarre cette semaine un programme sur les coraux profonds dans le golfe de Gascogne. On va parler d'acidification de l'océan. Et là, on va travailler avec l'IFREMER, mais aussi Sorbonne Université et d'autres partenaires étrangers.
Et pour continuer sur la pollution et la question de l'environnement, vous mêlez régulièrement art et science pour, je cite, « délivrer des messages scientifiques ». Éduquer et sensibiliser nos différents publics de façon ludique et originale à la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Oui, alors il y a 12 ans, on a mis un projet en place qui s'appelait « Jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement ». Moi, je souhaitais que croiser finalement différents regards sensibles de l'artiste et du scientifique pour amener finalement... Parfois, lorsque nous avons une entrée artistique, certains publics vont pouvoir rentrer par le côté artistique et mieux comprendre certains messages scientifiques complexes. Donc là, c'est un programme scolaire. Hein. Les élèves travaillent, là, même en période sanitaire complexe aujourd'hui pour nous à Oceanopolis, parce que nous sommes fermés. Nous avons maintenu ce programme et nous avons 2300 élèves d'impliqués quand même. Donc j'espère qu'on pourra voir leurs belles réalisations artistiques et scientifiques au mois de juin à Oceanopolis. Mais c'est un programme vraiment génial, quoi. On voit ce croisement de regards, cette approche à la fois artistique, on est aussi dans l'éducation au développement durable, donc ce sont des projets importants. Et puis nous avons de plus en plus d'artistes aussi en résidence à Oceanopolis, car nous pensons qu'avec eux, nous pouvons co-construire finalement des savoirs, des connaissances, en tout cas les transmettre, hein, créer de l'émotion pour peut-être changer le regard de nos publics sur l'océan. Donc, art et sciences, oui, ce sont des beaux programmes. Et puis, nous vous réservons une petite surprise au mois d'octobre et novembre. Pendant les vacances de la Toussaint, nous créons un nouveau festival qui va s'appeler « Les arts pulseurs de l'océan ». Donc un festival où l'art et la science dialogueront au quotidien au Oceanopolis.
On en parlera sans aucun doute à ce moment-là. Je me demandais, il faut tout le temps trouver des nouvelles formes pour sensibiliser à la protection de l'environnement ?
Alors pas forcément trouver des nouvelles formes. Il faut bien connaître les attentes, comme je vous disais, de nos visiteurs. Il faut trouver la meilleure manière de transmettre un message. Parfois, ça peut être un panneau dans le circuit de visite, ça peut être un dispositif interactif ou des nouvelles technologies, parce que ces nouvelles technologies vont servir la médiation scientifique, parce qu'elles vont apporter une valeur ajoutée à la compréhension du message. Mais parfois, ça peut être une médiation directe, un médiateur à un endroit. Donc voilà. Par contre, il faut se renouveler, ça c'est sûr. On sait que dans des centres comme le nôtre, il faut se renouveler. C'est pas très compliqué, hein. Nous sommes tellement en interaction avec nos partenaires scientifiques qu'on n'a même pas le temps de tout aborder. Donc on a toujours le fait d'être impliqué dans des programmes scientifiques nous permet de nous renouveler. Après, c'est à nous de choisir le meilleur moyen de transmettre ces informations-là pour amener finalement, parce que c'est ça qui est important, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'éducation au développement durable, c'est l'éducation à l'environnement. On est un outil formidable de pédagogique à Oceanopolis, mais nous souhaitons aussi, nous réfléchissons depuis quelques années aussi à comment engager nos publics avec nous pour préserver l'océan. Donc comment ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a mis en place un nouveau projet qui s'appelle les éco-conseillers de l'océan. On a retenu 10 classes bretonnes qui travaillent avec nous et 3 étudiants qui vont être les porte-parole des ambassadeurs de l'océan d'Océanopolis. Et là, on travaille sur différents sujets avec eux. Et le 8 juin, qui sera la Journée mondiale de l'océan, on leur donnera la parole et on essaiera de présenter leurs propositions à différents ministères, si on a la possibilité, en tout cas, de faire remonter leur travail à certains décideurs.
Oui, donc un très beau projet. Là, à l'instant, vous parliez de renouvellement, d'adaptation. Qui dit adaptation dit Covid. Concrètement, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé pour vos actions de médiation culturelle et scientifique? Je pense notamment aux e-classes dont vous parliez tout à l'heure.
Alors, beaucoup de choses. Hein. Bon, déjà, on a très, très hâte de retrouver nos publics. Hein. Quand on est médiateur scientifique, la médiation, c'est pas forcément, ne passe pas forcément par le numérique hein, au départ. Hein. Donc, on attend de réouvrir. Hein. On reste très positif. Mais pendant le confinement, le premier confinement, on a imaginé des e-classes, hein, les e-classes d'Océanopolis, pour une raison simple, pour qu'aussi mes équipes puissent revenir travailler à Océanopolis, garder des contacts avec les élèves, avec les enseignants. Donc, c'est un système d'ateliers pédagogiques à distance, mais pas non plus que vertical, pas que comme une réunion que nous faisons tous par différentes plateformes. Il y a vraiment essayé de recréer les interactions lors de ces e-classes. Alors, ces interactions, ça peut être tout simplement réaliser des expériences en direct, des manipulations, faire de l'observation, avoir des interactions évidemment entre le médiateur scientifique et l'élève. Et pour ça, on a créé aussi des cahiers d'expériences très adaptés. Donc, on a pas réadapter nos ateliers pédagogiques. On a créé 8 nouveaux ateliers pédagogiques à distance, interactifs, les e-classes d'Océanopolis. Ça fonctionne plutôt bien. Il y en a un petit peu tous les jours. Et c'est un dispositif finalement qui va pouvoir peut-être perdurer dans le temps malgré tout. Donc, on l'aurait peut-être pas mis en place, évidemment, s'il n'y avait pas eu cette crise, mais en fait, on se rend compte que ce dispositif permet de sensibiliser des établissements scolaires qui sont plus éloignés du littoral. Hein. Donc, et aussi, par exemple, hier, nous avons eu une classe de Fréjus, hein, donc un peu éloignée. Donc, on rentre en connexion avec des établissements scolaires que nous ne connaissons pas, et ça permet aussi à des classes qui sont un peu plus éloignées de l'océan, d'avoir des préoccupations finalement liées à la mer. S'ils ont une petite rivière à côté de chez eux, ils peuvent se dire, les plastiques, pollution plastique, ça arrive finalement à l'océan, pourquoi pas travailler sur une e-class sur les pollutions plastiques. Et ça, Océanopolis et l'équipe de médiateurs scientifiques propose cette alternative-là. Tout le système que nous avons mis en place pour les e-class, nous l'avons ensuite adapté pour la formation des enseignants, car chaque année, nous formons à peu près 250 enseignants à Océanopolis, des premiers et second degrés. Donc là, nous avons depuis les confinements, le deuxième confinement, assurer nos différents engagements avec l'éducation nationale. Et donc, nous avons réalisé plusieurs formations sur différentes thématiques pour les enseignants.
Anne Renian, comment vous vous projetez dans les prochains mois?
Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez quand même optimiste, positif, il faut l'être hein, quand vous avez des équipes derrière vous. Je pense que la culture scientifique, elle a jamais eu autant sa place aujourd'hui dans la société. On a redonné la parole finalement aux chercheurs scientifiques. Vous voyez, c'est pas si simple que ça d'expliquer les choses sur une crise sanitaire. L'interprétation peut être différente en fonction des gens. Donc je pense qu'on a nos rôles à jouer. Donc j'espère que nous, on va ouvrir dans peu de temps, peut-être au mois d'avril. En tout cas, on a conçu un programme culturel très très riche. Tout est nouveau cette année en 2021. C'était pas forcément voulu de cette manière-là, mais pratiquement tout ce que nous allons proposer dès que nous ouvrons sera de nouveaux dispositifs de médiation. Donc je me projette quand même plutôt bien, il faut être positif parce que c'est important d'aller à la rencontre des gens, de recréer du lien, recréer de la médiation scientifique, continuer à parler d'océan, d'environnement, sensibiliser.